Nous parlerons des liaisons dangereuses entre les ados et le cannabis. Les années, les petits Français sont champions d'Europe pour la consommation de cannabis. Alors comment comprendre ce phénomène? Pourquoi les adolescents sont particulièrement vulnérables à cette pratique? Au micro de Jacques Pradel, l'analyse et les conseils d'un spécialiste de l'adolescence, le docteur Patrice Huère, qui est psychiatre des hôpitaux et psychanalyste.
Bonjour Patrice Huère.
Bonjour.
Merci d'être là. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent que vous êtes avant tout médecin, psychiatre, psychanalyste. Quand vous rencontrez un jeune, c'est pas forcément parce qu'il prend du cannabis, mais ma première question c'est de savoir, vous, au poste d'observation qui est le vôtre, est-ce que cette augmentation dont on vient de parler à l'instant, vous l'avez mesurée depuis quand?
Oui, ça fait quelques années qu'on assiste à une augmentation de la consommation, y compris dans la population dont je m'occupe, c'est-à-dire des jeunes qui ont des pathologies et qui nécessitent des soins. Et on voit vraiment depuis quelques années un trouble croissant, y compris chez les professionnels, qui sont confrontés à cet usage de cannabis qui s'entremêle aux problèmes que l'adolescent peut présenter par ailleurs.
Ouais, c'est-à-dire que pour vous, il est difficile quelquefois de savoir qu'est-ce qui est dû à l'utilisation, à l'usage de cannabis, qu'est-ce qui vient d'autre chose,
voilà,
d'une affection psychologique autre.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire la poule et l'œuf, par où ça commence? Est-ce qu'on prend du cannabis parce qu'on va pas bien, ou est-ce que quand on va pas bien et qu'on prend du cannabis, ça accentue la pathologie, on sait plus bien à un moment donné, tellement ça s'entremêle.
Oui. Alors, si on se met du côté du public, de l'opinion, quelquefois c'est très difficile de se faire une opinion parce qu'il y a des tas d'arguments contradictoires. Oui. J'ai l'impression que chez les spécialistes, c'est la même chose. Je me trompe?
Oui, mais de moins en moins. Et en témoigne d'ailleurs cet ouvrage collectif où on voit qu'il y a un rassemblement quand même d'inquiétudes autour de cet usage chez les populations les plus vulnérables en particulier. Ça, là-dessus, je crois qu'il y a un consensus qui s'est établi. Le problème de cet usage, c'est qu'il se mêle pour l'analyser des données scientifiques, des données sociétales, des données juridiques, etc. Et que ça complique singulièrement le tableau.
Oui, mais je disais ça parce que effectivement, vous publiez un livre avant un colloque qui va avoir lieu à la fin du mois, le 26 novembre à Paris. Il paraît que vous fusée du monde, et ce sont que des professionnels qui sont invités.
Oui, absolument, ça témoigne de ce souci de mieux prendre en compte des adolescents consommateurs, alors réguliers, de cannabis, pour lesquels on a vraiment le sentiment que cette consommation contribue à l'accroissement ou au maintien du mal-être qui est le leur.
Oui. Encore un petit mot, après on va développer tout ça, bien sûr, après les informations. On parle toujours des problèmes et des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Rassurez-nous, en général, si tant est qu'on puisse faire des généralités, un adolescent qui a rencontré le cannabis peut s'en sortir.
Ouais, le contraire se saurait, parce que
oui, mais...
quand on voit qu'un adolescent sur deux à 18 ans en a consommé au moins une fois, on aurait quand même énormément de problèmes ultérieurement. Donc il y a un pic, évidemment, au moment de l'adolescence. On en reparlera du fait de tout ce qui se joue à ce moment-là. Mais le pic laisse la place à d'autres évolutions qu'à la pathologie.
On se retrouve tout de suite après les informations avec Patrice Huère. Toutes les questions, bien sûr, nous essayons d'y apporter nos réponses.
Que sait-on vraiment des modes d'action du cannabis et des conséquences biologiques et psychiques de cette substance longtemps ignorée en Europe? Quels problèmes personnels ou collectifs se cachent derrière l'usage de cette drogue, particulièrement chez les jeunes? Jacques Pradel et son invité, le docteur Patrice Huère, qui est psychiatre et psychanalyste et qui travaille auprès d'adolescents depuis près de 20 ans, nous donnent ce matin les informations qui peuvent permettre de se faire une opinion, car les discours sont très souvent contradictoires.
Ben oui, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup d'idéologies, c'est bien, c'est mal, c'est normal aussi de se poser ce genre de questions, Patrice Huère, mais c'est pas du tout là où vous avez décidé de vous situer, donc votre idée c'est pas de dire c'est la faute à qui, est-ce que c'est la faute à la société, à la famille, bon tout ça, c'est normal que ces questions s'expriment, mais je pense que vous, en tant que médecin et spécialiste aussi de l'adolescence, vous avez voulu déplacer un peu le problème. J'imagine que si vous publiez, ce qui est le cas là ces jours-ci aux éditions Albin Michel, un livre qui s'appelle Cannabis et adolescence, les liaisons dangereuses, qui est un livre collectif où on retrouve des historiens, des chercheurs, des neurobiologistes, des psychologues, des épidémiologistes et des gens qui essayent de voir ça au sens plus large, c'est parce que vous êtes dit mais il y a un manque d'informations, il faut qu'on réunisse un peu ce que savent plein de gens qu'on ne connaît pas forcément.
Oui, parce que chacun dans son domaine de compétences connaît un certain nombre de raisons de l'usage ou d'effets de cet usage, mais on a le sentiment que pour mieux éclairer le tableau, il faut vraiment faire appel à l'ensemble des compétences disponibles, tellement le problème est complexe dans cette rencontre entre un produit, un individu et une société et une époque.
Ouais. Alors la rencontre avec le produit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à 18 ans on pense qu'à peu près un jeune sur deux a été en contact avec le produit, mais vous parlez quand même, vous, dans pratiquement tous les articles de ce livre, de consommation dite lourde. Alors j'ai cru comprendre que consommation lourde, il y a quelques années, c'était 10 fois par an et que maintenant c'est 10 fois par mois.
Oui, enfin, on est, ça dépend de chacun a ses barèmes. Les épidémiologistes, comme Marie Choquet, qui intervient aussi dans ce livre, établissent à 40 fois par an, ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Et là, on a quand même 9% de la population en milieu scolaire qui est dans ce cas-là, ce qui est quand même très important.
Ouais. Et quand on dit que les jeunes Français sont champions d'Europe de la consommation de cannabis, on parle justement de ce secteur précis, de l'augmentation, en fait, des gens qui fument beaucoup plus.
Oui, oui, oui. Et aussi de l'augmentation de la rencontre avec le produit, même si elle n'est que ponctuelle. Mais ça s'inscrit dans un contexte général où la France est championne, par ailleurs, et ce n'est pas un titre de gloire, dans la consommation des médicaments psychotropes, d'alcool, etc.
Hein. Oui. Alors, quand vous parlez d'adolescents et d'adolescence, Patricia, parce que je crois que c'est très difficile de mettre un grand sac avec des idées générales, est-ce que l'adolescence, c'est à la même époque pour tout le monde? Quelle est cette... Parlez-moi de cette partie de la vie.
Oui, alors non, on ne peut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. En tout cas, ce qui marque la vie de la même manière pour tous, c'est la puberté, c'est-à-dire les changements du corps et à ce moment-là son cortège de troubles relationnels, psychologiques, comportementaux qui suivent vraiment les changements du corps. Ça, c'est valable pour tout le monde. Alors qu'après, pour les uns, ça s'accompagne d'un cortège plus important et plus durable et pour les autres que ça s'abrège parce qu'ils rentrent vite dans les vies actives pour des tas de raisons, là, c'est sûr qu'il y a des différences très importantes où la sociologie va prendre toute sa place.
Oui. Mais alors, pour le corps, vous l'avez dit, il y a des transformations à l'adolescence. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là?
Eh bien, c'est justement la difficulté que l'adolescent va avoir pour faire connaissance avec ce corps nouveau et avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire faire connaissance avec un lui-même qui n'est plus celui qu'il connaissait, qu'il avait identifié durant toute la période de l'enfance, et de la même manière, faire changer aussi le regard des parents ou des adultes qui l'environnent sur cet être nouveau qui est en train d'émerger avec parfois une grande rapidité dans ses bouleversements, parce que vous savez qu'à cette période-là de la vie, parfois, en une année, on va prendre 10-12 centimètres, on est méconnaissable aux yeux de son entourage, à ses propres yeux, et donc il y a vraiment là un trouble très important qui fragilise n'importe quel enfant en bonne santé mentale par ailleurs. Vous voyez.
Voilà, il est normal que à cette période-là, il y ait un certain nombre de choses qui changent et que ça puisse poser des problèmes. En fait,
il y a un besoin d'exploration finalement d'un domaine nouveau qui est un soi nouveau, un rapport au monde nouveau. On voit le monde autrement, on a les sentiments d'injustice qu'on ne percevait pas avant. Bref, le regard se porte au-delà du périmètre familial ou de l'école pour aller vers le monde et la société en général, avec un affolement en retour chez certains, parce qu'il y a une sorte de vertige.
Ouais. Et l'herbe est toujours meilleure au-delà du barbelé. Alors, la notion de l'interdit, mais peut-être pas tel que vous, psychiatre, vous utilisez ce mot, mais le mot banal. Bon, est-ce que ça, par contre, est-ce que c'est un motif, enfin, je veux dire, important la rencontre d'un produit comme le cannabis?
Ah oui, bien sûr, c'est un élément important à l'adolescence, en général, que d'explorer les limites de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit. Alors que ce soit de piquer un peu d'argent dans le porte-monnaie familial ou un petit objet dans une grande surface, ou que ce soit la consommation d'un produit illégal. Donc cette exploration, au fond, c'est une exploration des limites du monde, de la société dans laquelle on vit, pour voir si ces limites sont bien là où les adultes les donnent, les placent, ou si finalement on peut les déborder assez facilement, avec toute la satisfaction immédiate que ça engendre, mais aussi avec tout le trouble, parce qu'à ce moment-là, à qui va-t-on pouvoir se fier si ce qui est posé à tel endroit, finalement, ne tient pas la route?
Et alors, qu'est-ce qu'il a? C'est au praticien que je m'adresse, et à celui qui travaille avec des jeunes adolescents depuis plus de 20 ans, puis vous dirigez aussi une clinique universitaire où vous soignez des lycéens, des jeunes qui ont beaucoup de pathologies qui n'ont rien à voir avec la drogue, mais certaines qui ont à voir avec. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'adolescent quand il y a la rencontre avec un produit comme le cannabis?
Alors, tout va dépendre de l'adolescence, c'est pour ça que c'est très complexe, parce que pour certains, ça relèvera juste d'un mécanisme, on pourrait dire très ordinaire, de curiosité, ou d'entraînement par un groupe d'autres jeunes qui disent « Mais allez, tu vas pas nous laisser, viens, si tu es un peu courageux, si tu es un grand, tu viens avec nous. » Et qui n'osera pas se mettre en marge de ce groupe d'appartenance, parce que sinon il va le payer cher tout le reste de l'année scolaire, par exemple. Mais une fois qu'il aura essayé, ça ne répondra pas à un intérêt personnel très grand. Jusqu'à ceux qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables sur le plan psychologique, sur le plan familial, sur le plan de leur insertion sociale ou scolaire, etc., pour lesquels la rencontre avec le produit peut colmater un peu ces brèches artificiellement et du coup être le point de départ d'une consommation beaucoup plus régulière.
Oui. Et en général, les adolescents que vous rencontrez viennent de leur propre fête ou amenés par la famille, par les institutions scolaires.
Alors ceux que je rencontre sont dans des situations pathologiques, hein, donc ils sont malades et connus comme tels, eux-mêmes se reconnaissent comme tels et demandeurs d'aide et de soins. Mmh. Donc c'est une sous-population qui, elle, n'a pas beaucoup augmenté, qui est la population des jeunes qui sont atteints par des pathologies psychiatriques, même si ces pathologies restent toujours très méconnues, l'objet de beaucoup de tabous, on n'ose pas trop en parler, c'est un peu la folie, hein, qui plane, on se dit oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, donc on n'en parle pas beaucoup plus qu'auparavant, ça existe pas beaucoup plus qu'auparavant, mais ça existe, c'est un nombre important quand même d'adolescents qui méritent d'être soignés le plus tôt possible, et pour lesquels, quand il y a eu une rencontre avec le cannabis, et c'est ça qui nous a troublés, nous les professionnels, ces dernières années, c'est que cette rencontre augmentant quantitativement engendre aussi des difficultés supplémentaires en plus de leur pathologie, mm-hmm. ou les empêche d'évoluer plus favorablement.
Mais vous, ce sont des traitements qui se passent par la conversation, principalement.
Il y a toute une approche.
Vous devez avoir plein d'histoires dans la tête. Comment est-ce qu'ils racontent leur propre histoire, ces jeunes?
Alors, il y a toute une série d'étapes, parce qu'avant de pouvoir parler de soi, surtout à cet âge-là de la vie, c'est très compliqué. Vous savez que c'est un âge où on parle peu de soi, par contre, on agit beaucoup. Donc, et le cannabis, là, occupe une place préférentielle, parce que ça évite finalement de parler des troubles, surtout si ça les apaise, apparemment et artificiellement. Ouais. Donc, il y a tout un temps préalable de confiance à établir avec des adultes de référence, des professionnels de soins, pour pouvoir s'engager à parler un peu de soi. On ne livre pas son monde intérieur, comme ça, à n'importe qui. Et c'est bien normal. Et à cet âge-là, encore moins. Après, donc, le traitement va être un traitement qui va être basé en même temps sur ce qu'on appelle une psychothérapie ou un travail par la parole. En même temps, quand il y a des symptômes trop gênants, par des traitements médicamenteux qui peuvent avoir tout leur intérêt aussi, pour éviter qu'un adolescent ne s'enfonce dans une sorte d'ornière dont il ne peut plus sortir, dépression, angoisse, troubles du sommeil massif. Et puis, il y a toute l'aide pour reprendre une place dans la vie sociale, scolaire, ordinaire, par le biais de médiation culturelle, sportive, que sais-je encore.
Oui. C'est étrange qu'au moment où on devrait rêver d'indépendance, on se trouve sous la dépendance d'un produit.
Alors c'est tout le paradoxe.
On peut parler de dépendance là.
Absolument. C'est tout le paradoxe de cet âge-là qu'on retrouve sur beaucoup d'autres sujets, mais sur celui-là c'est exemplaire. C'est-à-dire que l'adolescent dit je n'ai plus besoin de vous, mes parents. Maintenant je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Lâchez-moi, hein. Laissez-moi tranquille. Vous me prenez la tête. Et en même temps, si ses parents le prennent au mot et disent bon d'accord, ben on s'en va ce week-end. Ils disent mais vous m'abandonnez, vous me laissez tomber, vous vous en fichez de ce qui peut m'arriver. Donc c'est tout le jeu très difficile pour les adultes quand ils s'occupent d'adolescents, de pas être trop près parce qu'à ce moment-là ils ont le sentiment qu'on leur prend la tête et qu'on les envahit, et pas être trop loin parce qu'à ce moment-là ils ont le sentiment d'être abandonnés. C'est-à-dire que ce qui les désespère, c'est d'avoir tellement besoin encore des adultes, et en particulier de leurs parents, mais pas seulement de leurs parents. Et ce désespoir qu'ils ont les amène à emprunter volontiers des chemins de traverse tels que l'usage du cannabis, qui va leur laisser penser en apparence qu'ils sont indépendants de leurs parents, sans voir qu'ils sont tombés dans une autre dépendance. Au fond, c'est un transfert de dépendance, ça a glissé d'une dépendance à des adultes très investis par eux, vers un produit.
Oui. Et est-ce qu'il faut comprendre, Patrice Huyère, que certains adolescents prennent du cannabis comme leurs parents ou leurs grands-parents prennent des psychotropes qui se font tout simplement, qu'ils vont chercher chez le médecin?
Alors, on ne peut pas assimiler complètement les deux.
On est champion du monde de ça aussi,
absolument,
en France.
Absolument. Mais on ne peut pas assimiler complètement les deux, dans la mesure où l'usage des psychotropes est un usage, même si parfois il nous paraît tout à fait abusif, est un usage qui est légal. Quand il est le résultat d'une prescription médicale, alors que l'usage du cannabis est illégal. Donc cette dimension de transgression, tant que la loi est ce qu'elle est une dimension qui est très importante aussi pour comprendre le mécanisme, en particulier au moment de l'adolescence, et du côté des réactions des parents et des adultes. Parce qu'on ne peut pas faire, quand on est adulte, comme si le cannabis était une drogue légale.
Oui. Mais alors le discours a beaucoup changé aussi sur le cannabis, ça va dans tous les sens. L'idée de drogue douce, vous pensez que ça a compliqué le problème?
Je pense que chaque époque a cherché à pointer du doigt ses représentations, son idée sur le produit, au vu d'éléments très variables. Ce qui fait qu'on a des mouvements de balancier entre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire produit finalement secondaire dans ses effets, pas très grave, drogue douce, on va avoir des tas d'appellations comme ça. Et puis des moments de dramatisation, on en a connu dans les années précédentes. Ça offre encore moins de points de repère. Ce qui fait que pour l'adolescent, de voir le désarroi adulte, ça le réjouit, parce qu'il se dit, bon, après tout, ils disent n'importe quoi. Ils prétendent savoir, mais en fait, ils ne savent rien. La preuve, on a des discours contradictoires. Telle autre personnalité dit, c'est pas grave. Telle autre dit, c'est dramatique. Donc, ça ne veut rien dire. Ça annule complètement le discours. Mmh. Et là, on a un vrai problème de crédibilité en tant qu'adulte, à ce moment-là. De la même manière, quand on dit, en consommé est puni d'une année d'emprisonnement, et que personne, parmi les usagers ponctuels, n'a jamais été en prison. Dieu merci d'ailleurs. Hein. Mmh. Donc, vous voyez, il y a vraiment un problème de crédibilité qui va ouvrir une brèche très grande pour les adolescents pour essayer de voir par eux-mêmes, en disant, parce que tous les adultes ne savent pas, donc moi je vais voir par moi-même, je vais me faire mon idée. Et évidemment, l'idée qu'ils s'en font, c'est pas grave. Ouais. Parce que tous les usagers de drogue, et surtout quand ils en sont dépendants, pensent qu'ils n'en sont pas dépendants, bien sûr.
Et donc vous rencontrez des gens qui se droguent durement avec une drogue douce. Parfois.
Alors, on pourrait dire en tout cas qu'ils sont très dépendants d'un produit.
Prenez l'exemple d'un garçon là, dans votre chapitre que vous avez écrit dans ce livre, qui s'appelle Paul. On peut peut-être revenir sur cette histoire, parce que j'imagine que Paul, c'est un prénom que vous avez donné comme ça, mais ça correspond à peut-être
oui,
à plusieurs
cas. Oui, à toute une série d'histoires hein, qu'on peut, peut retrouver. On va voir assez souvent, mais là c'est des cas particuliers, attention, hein, parce que ce sont des jeunes qui ont une pathologie par ailleurs, hein, c'est-à-dire pour lesquels la rencontre avec le cannabis va être une rencontre qui va se bloquer, qui va se fermer, parce que, au fond, ils ont une vulnérabilité. Moi, on en rencontre beaucoup parmi nous, les cliniciens, des jeunes qui ont des angoisses très importantes, par exemple. Des angoisses pour s'endormir, des angoisses dans la journée, à tout propos. Quand ils rencontrent sur leur chemin le cannabis, cette rencontre va apaiser l'angoisse. Ça va être une sorte d'auto-traitement dans un premier temps. Ils disent, bah, c'est merveilleux, j'ai beaucoup moins d'angoisse, j'ai pas besoin de recourir aux adultes, j'ai pas besoin de parler aux médecins.
Et tout va bien.
Et tout va bien. Et ils rentrent dans cette illusion qu'ils vont pouvoir entretenir à un moment donné, jusqu'au moment où ils vont s'apercevoir qu'ils sont aussi enfermés là-dedans. Et que finalement, ils ne peuvent plus en sortir de cette dépendance nouvelle. Mmh. Et ou alors, quand ils arrêtent, tout à coup, les angoisses réapparaissent en force. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien quelque chose derrière qui a généré ces angoisses fortes. Et c'est là où, dans un second temps, mais c'est souvent très tardif, malheureusement, il y aura une prise de conscience du fait que ça ne règle pas leurs problèmes et qu'il va falloir qu'ils se penchent vraiment sur eux-mêmes. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est ce temps qu'il faut pour que l'individu lui-même, l'adolescent lui-même, prenne conscience des effets, pas seulement utiles apparemment, sur lui, mais aussi des effets délétères.
Oui. Mais alors, Patrice, est-ce qu'il faut comprendre que seuls les adolescents ayant déjà des pathologies, je ne sais pas comment on dit, mentales, psychiatriques, sont menacés par l'usage du cannabis?
Non, parce qu'on ne sait pas. Alors, il y a ceux pour lesquels la pathologie psychiatrique est déjà avérée. Bon, ben, ceux-là, on va évidemment, nous les professionnels, toujours, non seulement leur déconseiller l'usage du cannabis, parce qu'on voit bien les effets que ça peut avoir sur l'évolution de leur pathologie, mais il y a tous ceux qui ne se savent pas en difficulté psychique, qui ne sont pas repérés comme tels, y compris par leur entourage, qui colmatent les brèches tant bien que mal au jour le jour, et pour lesquels la rencontre avec le cannabis va pouvoir être l'occasion de soit d'aller mieux apparemment, soit au contraire de basculer, et c'est cela aussi qui nous inquiète, basculer avec des émergences d'états dépressifs ou d'états délirants chez certains qui étaient des jeunes très fragiles, mais qui n'avaient pas encore du tout décompensé.
Délirant, ça veut dire quoi dans le bouche d'un psychiatre?
Avoir des hallucinations, par exemple,
entendre des phrases, entendre des voix,
voir autrement la réalité, se reconstruire une nouvelle représentation de la réalité dans que l'on pense vraie.
Alors, il y a aussi autre chose que vous dites cette partie du livre. Vous dites que, évidemment, à l'âge de l'adolescence, on n'en a pas parlé, on cherche des modèles.
Oui.
Ces modèles, on va les chercher dans la société qui est la nôtre. Quoi. Oui. Et vous dites, nous, on a, manque de chance, une société qui est très adolescente. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez pointé ça? Parce que...
Oui, mais je crois qu'on est vraiment dans une époque très adolescente du point de vue de son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on fonctionne dans l'instant, dans l'immédiat, comme les adolescents qui ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, et donc c'est l'instant qui compte. Mmh. On est une société qui aspire et pousse à la consommation, donc consommer, ayez des biens matériels, etc., et vous existerez. Et cette confusion-là, l'être et l'avoir, on pourrait dire, va pour les adolescents être très attractif, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir que d'être, hein, surtout quand on est en période de recherche sur soi-même. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une grande proximité, ce qui n'aide pas l'adolescent à se construire et à sortir de ces dilemmes habituels de l'âge, parce que les modèles périphériques que la société offre actuellement sont des modèles très proches de son propre fonctionnement. Je veux, c'est tout de suite, je consomme et je vais, et j'existe, etc.
Ouais. Donc là, on vient de faire une sorte de tableau général, en fait, du paysage, quoi, dans lequel vous intervenez les uns et les autres, et puis vous vous êtes dit, bah, il faut qu'on parle ensemble et qu'on essaie de
qu'on mette en commun nos réflexions, nos expériences, pour essayer de mieux comprendre comment on pourra aider mieux ces adolescents-là.
Alors, on va continuer à en parler, bien entendu. Vos questions, vos réactions, vos témoignages au 01 42 32 15 15, europe1.fr, si vous êtes sur Internet. Alors, évidemment, Patrice Huer, et là, je me retourne, c'est nous, le public, qui nous posons des questions, c'est comment ça fonctionne, je veux dire, quelles sont les conséquences de la prise de cannabis, à la fois sur le psychisme, à la fois sur le corps, quoi, tout simplement. Est-ce que ça a des effets ou pas? On verra tout à l'heure, peut-être, avec un neurobiologiste. Et puis, il y a aussi toute la partie histoire, parce que c'est vrai que c'est un produit qui est apparu récemment, en fait, quoi, dans nos sociétés. Récemment, ça veut dire à la fin du 19e siècle, et encore, vous le citez d'ailleurs dans ce livre, dans les années 60, même pour les policiers qui étaient chargés de la lutte anti-drogue, vraiment, le cannabis, ils évacuaient la question en 2 ou 3 minutes. Ça veut dire qu'on n'a rien vu venir.
C'est une histoire plus compliquée. Je pense que l'historien qui participe à ce livre collectif, Jean-Jacques Ivorel, pourra en dire.
Oui, on l'aura tout à l'heure au téléphone, absolument. Oui.
Mais c'est vrai qu'on voit on voit toute une série de phases au milieu du 19e siècle où il y a une rencontre entre, on pourrait dire, des poètes, des écrivains. Et le cannabis, et puis des périodes comme le début du 20e siècle où on n'en parle plus quasiment jusqu'aux années 60, et puis de nouveau l'émergence de la consommation qui s'accentue considérablement ces dernières années. Mais dans notre société, puisque dans d'autres sociétés, évidemment, l'usage du cannabis est ancestral.
Oui. Mais alors, vous, par rapport à votre pratique, on va venir aussi à comment vous agissez, comment on essaye de faire en sorte que ces jeunes puissent s'en sortir. Et je pense que vous avez des exemples à nous donner de ce côté-là. Mais vous, en tant que praticien qui, quand même, est très près de ce problème-là depuis maintenant de très nombreuses années, qu'est-ce qui vous manquait comme information puisque tout cela, tous ces textes paraissent maintenant dans ce livre collectif, donc Cannabis et adolescence, les liaisons dangereuse qui paraît aux éditions Albin Michel.
Ce qui nous manquait, c'est peut-être de mieux prendre en compte ce que d'autres domaines de recherche peuvent apporter. Vous savez, c'est un travers habituel. Chaque métier creuse son sillon, a ses outils, se forge ses références, et puis peut oublier ce qui évolue parallèlement. Et je crois qu'on est rentré dans une époque où les conflits apparents, ou les débats d'idées, où on évacuait complètement ce que les autres pouvaient apporter, c'est terminé. Et qu'il y a vraiment chez les professionnels le souci, en particulier dans la santé mentale, le souci de prendre en compte ce que les anthropologues, les sociologues, les historiens, les biologistes peuvent nous apporter aussi comme éclairage. Donc ça, c'est une tendance nouvelle de notre époque. Et puis par ailleurs, il y a l'augmentation considérable de la consommation qui fait que le problème se pose autrement. Quand ça concernait une petite frange de la population, c'est pas la même chose que quand ça concerne maintenant un adolescent sur deux à 18 ans.